Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Airfortin.com.
Yes!
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires.
Pour le meilleur show en immobilier sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Un contenu détaillé.
C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute du Jargon avec Guillaume Fortin. Bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, samedi, 11h. Je suis toujours avec mon acolyte Sylvie, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir dans les entrevues. Puis je pense qu'aujourd'hui, on reçoit une amie, collègue, partenaire.
Oui, exact. Ben en fait, une amie qui, quand c'est parti à son compte, je pense que je l'ai connue dès le début. Là. Donc, on parle souvent des réseaux de contact, comment ça nous suit sur le long terme. On est membre d'un club affaires, justement, où on va dîner une fois par mois avec d'autres professionnels. Donc, j'ai vu une belle évolution aussi dans sa carrière. Donc, c'est pour ça que j'étais contente de la recevoir aujourd'hui. C'est Caroline Charret, donc... Service financier Caroline Charest, je vais le dire, je suis trop énervée de te rencontrer, Caroline, aujourd'hui. Comment ça va, ma chère?
Ça va super bien, Sylvie. Merci pour l'invitation, justement, là, pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Puis, enchantée à nouveau, Jeff.
Ben oui, parce qu'elle me disait tantôt, elle disait, hey, je t'ai déjà vu, je te connais, on s'est... Puis là, j'étais comme, écoute, j'ai aucune idée, là, tu sais, moi, ton nom me dit... Dis pas grand chose pour le moment. Fait que, tu sais, je veux juste savoir à quel endroit qu'on s'est vu. Puis avec votre truc de réseautage, tu m'avais invité où est-ce que
oui,
vous avez joué au swing
ben
de golf.
Oui.
Puis là, ça a comme fait.
Je m'en souvenais pas.
Yes, ouais. Je m'en souviens 100%. Puis ça avait été vraiment cool. Puis tu sais, en plus, après ça, on est allé manger tout le monde ensemble, etc. Puis on avait vraiment eu du fun. Puis quand tu dis que c'est important d'entretenir le réseau, mais tu sais, toi, tu le fais super bien avec l'ensemble de ton réseau. Puis aujourd'hui, on a la chance de te rencontrer. Fait que tu es présidente chez Services financiers Caroline Charret. Puis. Ouais. Au départ, on veut toujours savoir, tu sais, comment que l'entreprise est arrivée, mais c'est quoi ton parcours à toi, tes études, puis qu'est-ce qui t'a amené là-dessus?
Ouais, ben moi, j'ai vraiment un parcours atypique. Moi, premièrement, je viens de Rimouski. Ensuite de ça, je voulais vraiment m'en venir à Québec. J'adorais la ville et tout. Fait que je cherchais quelque chose. Ben, tu sais, à 17 ans, on cherche un peu, là. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais être à mon compte. Fait que là, finalement, j'ai étudié en restauration. Parce que j'imaginais que je voudrais un jour avoir des restaurants. Puis, de fil en aiguille, finalement, à 22 ans, j'étais déjà directrice. C'est pas nécessairement quelque chose qui était prévu, mais j'étais déjà directrice générale là, d'un restaurant, vraiment jeune.
Ben ouais.
Fait que j'ai vu un petit peu c'était quoi avoir un restaurant. Puis je me suis dit, même si j'adore ce milieu-là, je me voyais pas faire ça à long terme parce que je pense que pour avoir un restaurant personnellement, ça c'est une opinion personnelle, faut vraiment que tu sois présent tout le temps puis que tu entertain, si je peux dire, au niveau de la clientèle et tout ça. Donc finalement, je voulais retourner aux études, mais je savais pas en quoi. Puis c'est vraiment mes amis là, en me connaissant qui m'ont dit ben pourquoi tu vas pas étudier en finance parce que tu es super bonne avec tes finances personnelles, puis également t'es vraiment à l'aise aussi là, avec les gens en général. Fait que je me suis lancée, puis je me suis dit je vais m'inscrire premièrement au cégep. Il y avait un cours en fait là au niveau des services financiers, tout ça. Fait que j'ai commencé le cégep, puis j'ai rencontré, en fait, des gens qui travaillaient dans le domaine. Là. C'était leur party de Noël. Je travaillais au Montego dans ce temps-là. Puis là, ils m'ont recruté tout de suite. Fait que j'ai même pas eu le temps de me rendre finalement à l'université. Ah ouais. J'ai déjà commencé. En 2015, ensuite de ça, je suis allée chercher au niveau des avantages sociaux pour les entreprises. Puis je travaillais avec la financière Liberté 55 qui n'existe plus maintenant. Fait que ça, c'était en 2013. Ensuite de ça, j'ai intégré un autre bureau qui était plus au niveau de la clientèle que je voulais desservir, fait que les entrepreneurs, les professionnels et tout. Puis, j'ai finalement acheté des parts là, dans une compagnie sœur là, qu'on avait créée au niveau des avantages sociaux. Ensuite, j'ai revendu mes parts. Là, je me suis incorporée avec Sylvie en 2020. Puis, c'est là que j'ai parti le cabinet. Et avec tout ça, ben là, j'avais vraiment le goût d'aller terminer mes études, mais j'avais beaucoup déjà d'années d'expérience. Fait que j'étais allée faire une équivalence à l'automne dernier. Puis là, je suis en train de faire mon parcours là, pour avoir mon titre de planificatrice financière finalement. Fait que ça ressemble à ça.
Oui. Ce qui est le fun, c'est que toi aussi, tu as de l'intérêt pour l'immobilier. Tu as acheté un immeuble commercial avec tes associés.
Oui, exactement. Officiellement, juin de l'été dernier, finalement, on est officiellement devenu le propriétaire. On est 6 associés. Puis, on a beaucoup de projets là, par rapport à cette bâtisse-là. Mais on a tous nos travails respectifs. Donc, c'est sûr qu'on y va selon nos temps. Il y a Martin mm-hmm. qui fait un petit peu plus de que tu connais, qui fait un petit peu plus de travail que les autres. Heureusement qu'on l'a, mais oui, on a acquéri cet immeuble-là, puis on est vraiment fiers. Là, mm-hmm. Il y a d'autres projets aussi là, qu'on veut faire là, à ce niveau-là.
Puis une des choses pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, puis qu'on trouvait que c'était un bon fit dans l'émission, c'est que, tu sais, on va se le dire, il y a quand même des pédaleurs dans tous les domaines, hein? On le sait. Courtier, avocat, conseiller en placement, on est pas mal les trois pédaleurs actuellement.
Oh, oui,
dans la tête de certaines personnes. Mais en fait, ce que j'aime de toi, Caroline, ton approche, c'est qu'elle ressemble un peu à la mienne aussi. Tu sais, t'aimes vulgariser, t'aimes rendre accessible, t'adores donner de l'information. T'as toi-même débuté un podcast récemment.
Only Finance.
Only Finance, c'est good. Mais tu sais, à cause de ça, t'as ce désir-là qui t'anime là, de rendre ça plus accessible.
Exactement. Ben, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans toutes nos professions respectives. Et moi, c'était vraiment, je voulais que ça soit vraiment basé sur l'humain. Fait que c'est sûr que tout le marketing est vraiment basé sur l'offre de service, la proximité. Pour moi, c'est vraiment important que les clients sachent pourquoi ils font ce qu'ils font au niveau des recommandations, qu'il n'y ait pas de pression non plus, que ça soit vraiment du conseil et non pas de la vente de produits financiers. Mm-hmm. Ça, je trouve ça super important parce qu'à la base, tout le monde devrait avoir, tu sais, à moins de vraiment faire des recherches, on n'a pas vraiment d'éducation financière là, autant que les spécialistes en finance. Fait que je trouve ça super important de vulgariser justement au niveau des recommandations, de donner vraiment beaucoup de choix à mes clients. Puis je leur remets toujours beaucoup de documentation aussi pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées. Mm-hmm. Puis c'est souvent ce qui ressort là, de mon service là, avec les clients. Ils disent « Ah, je comprends, là, qu'est-ce que je fais? Ouais. » Des fois, il y en a qui vont dire « Faut que tu fasses ça. » Mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils le font. Fait que le fait de savoir pourquoi tu le fais, ben, ça concrétise vraiment, de un, ta relation avec ton client, puis de deux, ton expertise aussi. Pis...
Les gens n'osent pas tout le temps aussi poser des questions. Ouais. T'sais, souvent, on ne veut pas avoir l'air idiot. Hein. Moi, j'ai des clients qui sont en affaires depuis 10 ans, puis je leur apprends une technicalité de base, assez de base, mais qui crime, ils ne se l'ont jamais fait expliquer, ils l'ont jamais su, ils l'avaient compris tout croche. Il n'y a jamais de mauvais moment pour apprendre, il n'y a jamais trop tard pour apprendre. Fait que, avec ton approche d'infinance, je pense que c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui a déjà quand même de l'argent investi, mais on se tue les yeux, cette question-là, mais toi, si t'arrives, tu donnes l'information, tu vas au-devant.
C'est important de s'adapter aussi. Il y en a que des clients, c'est des clients plus jeunes. Donc là, c'est sûr que les clients plus jeunes, des fois, il y a plus d'accompagnement à faire là, au départ. Puis il y a des clients, ça fait longtemps qu'ils sont habitués ou qu'ils sont en affaires. Mm-hmm. Mais des fois, le client qui ça fait longtemps qu'il est en affaires, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est plus bien organisé. Des fois, il pense que oui, mais des fois, il n'est pas toujours bien organisé. Fait que ça, c'est comme dans n'importe quoi. Ouais. Fait que l'important, c'est de s'adapter à qui tu t'adresses aussi. Puis tu le vois dans leur... je me souviens plus là, le terme, là, mais tu sais, l'intelligence émotionnelle, là, quand tu regardes quelqu'un, mm-hmm. tu vois dans sa face qu'il y a un gros point d'interrogation, ben là, continue pas, tu sais, demande-y si tout est correct. Puis,
ouais.
Ah oui, puis, puis ça, c'est super important. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est pas sexy non plus parler d'assurance vie, d'assurance maladie grave, d'assurance invalidité. Tu sais, c'est vraiment, vraiment pas sexy. Puis, exact. Récemment, j'ai eu une rencontre justement avec notre cabinet. Puis, pour moi, là, je déteste ces rencontres-là. Puis, tu sais, on parle justement d'assurance vie. Puis là, j'étais avec ma blonde sur le Zoom. Puis là, je dis, tu sais, Van, tu penses mourir à quel âge? Puis là, tu sais, elle fait comme moi. Fait que là, le conseiller, il file mal sur ma question que je pose à ma blonde. Puis tout ça, puis tu sais, bien qu'à un moment donné, c'est toujours un peu plus... c'est complexe. Il y a plusieurs... Tu sais, il y a tellement d'offres dans l'assurance vie, invalidité, maladie grave qu'on ne sait pas lequel choisir, lequel s'adapte pour nous vraiment. Ça devient un beau free-for-all là, quand on est tout seul et qu'on connaît pas ça. Puis, tu sais, tu dis des gens qui sont plus initiés, il y en a d'autres qui le sont moins. Puis, tu sais, moi, je suis en affaires depuis vraiment longtemps. Puis, les assurances, ça me pue au nez. Je déteste ça. Je veux rien savoir. Je veux même pas savoir comment ça marche. Ça m'intéresse pas. Sauf que c'est
j'ai
un mal.
J'ai jamais eu un client qui me dit, hey, je trippe tellement sur cette rencontre d'assurance.
Ah ouais, 100%, 100%. Puis, tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce que je trouve qui est encore plus dur? C'est de s'assurer que le produit qu'on va prendre va répondre 100% à nos besoins actuels, nos besoins futurs aussi. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que nos assurances, on est toujours assuré pour qu'est-ce qui nous arrive pas. Puis qu'est-ce qui nous arrive, il y a toujours des limitations qui disent « Ah, ben non, finalement, tu sais, ça, je peux pas te payer. Ah, ben non, finalement, ça, je peux pas te payer, etc. » Fait que j'ai toujours trouvé ça très dur. Puis toi, t'es capable de bien le vulgariser, t'es capable de bien le mentionner à tes clients, comment ça fonctionne, etc. Fait que ça vient donner... Un effet de confiance beaucoup plus grand aussi. Là.
Exactement. C'est sûr que des fois, je donne tellement d'informations que là, le client, il ne sait plus quoi faire.
Il devient étourdi, ouais.
Mais tu sais, je préfère le faire de cette façon-là, qu'ils me disent un jour, dans 5, 10, 15 ans, « Hey, j'ai parlé à mon chum de gars, puis lui, il a tel produit. Comment ça, tu ne m'as pas parlé de ce produit-là? » Puis ça se peut que ça ne s'en souvienne pas que j'en ai parlé aussi, mais au moins, tu sais, on écrit tout. Fait que ça se peut que je dise, « Ben non, c'est pas vrai. Tu sais, je t'en avais parlé, puis tu avais décidé de ne pas prendre ça parce que telle raison à ce moment-là. » T'sais, on évolue aussi là, dans notre vie financière et dans notre vie en général. Fait que ça se peut que les décisions initiales qu'on avait prises justement initialement, ben, que ça ne soit plus nécessairement les décisions qu'on aurait prises maintenant là, à ce jour. Fait que c'est important de rencontrer son planificateur financier aussi pour s'assurer que c'est toujours optimal à sa situation.
Puis tu sais, de faire des rencontres plus qu'une fois une fois aux 15 ans, là, c'est quand même important d'avoir des discussions régulières avec eux. Puis au-delà de ça, c'est une des choses que moi, je me suis rendu compte, c'est que c'est des points de contact qui n'ont pas été faits assez régulièrement, qui faisaient en sorte qu'on perdait le fil, qu'on avait des situations personnelles qui changeaient. Tu sais, un nouvel enfant, il y avait l'acquisition d'un nouveau bâtiment commercial, une nouvelle société, etc. Puis c'est des choses qui sont importantes à assurer. Puis c'est pas juste non plus une assurance pour les biens, mais tu sais, une assurance pour nos actionnaires aussi, là, nos partenaires d'affaires, les gens avec qui qu'on a des conventions. C'est important qu'on soit bien protégé, eux envers nous, mais nous envers eux aussi. Puis souvent, c'est délaissé de côté. Souvent, c'est des choses qui sont pas discutées. Fait que c'est des points qui sont vraiment importants. Puis quand que la convention se crée, tu sais, il devrait avoir les clauses d'assurance qui sont incluses dans la convention pour s'assurer que tout le monde soit là.
Normalement, les clauses sont toujours là. Quand je vois des conventions, le problème, c'est que ça
ne
suit pas chez le conseiller ou chez le planificateur financier. Fait que là, c'est le fun que ça soit écrit dans la convention, mais souvent, c'est même obligatoire d'avoir une assurance vie ou une assurance invalidité. Il y a même le rachat de part aussi. Fait que, tu sais, c'est le fun, la convention. Le reste fonctionne quand même, mais si tu ne vas pas voir ton professionnel de la finance, bien, il n'y aura rien qui va être mis en place pour honorer ces clauses-là, finalement.
Aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on a vraiment mis la table, moi et Caroline, avant l'entrevue d'aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, on s'adresse à du monde en immobilier qui ont tendance à tout mettre aussi, leurs œufs dans le même panier. On achète de l'immobilier, on achète de l'immobilier. Donc, les prochains sujets qui s'en viennent, restez vraiment à l'écoute parce qu'on veut vraiment, tu sais, apporter une vision différente. Les sujets vont vraiment être axés sur les gens qui nous écoutent à la maison aujourd'hui dans leur auto. Donc, vraiment intéressant.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes!
Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 87.
Au trajectoireemploi.com.
Sur Facebook. Sur YouTube.
Sur TikTok.
C'est JMD 96.9.
Oh, La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Nous sommes de retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous avez un projet immobilier pour la vente ou l'achat d'une propriété, c'est super simple, vous me contactez directement 418-801-8011. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me texter, vous pouvez même m'envoyer un courriel à info@jeanfrancoismorin.ca. Aujourd'hui, on parle de services financiers. C'est un domaine qui n'est pas toujours à la mode. C'est des domaines que, tu sais, c'est on est obligé à un moment donné d'en parler, puis surtout quand on fait de l'investissement immobilier. Sauf que c'est pas un domaine qui est chic, 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 ou ce qu'on dit crime aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, on va regarder, etc. Quand on parle de placement, de planification, de fiscalité long terme, ça devient vraiment intéressant. Mais quand on parle de mort, c'est toujours moins le fun aussi un peu par rapport à tout ça. On est avec Caroline Charret, présidente des services financiers. Caroline Charret, merci d'être avec nous. Puis dans le fond, une des choses que tu parlais, c'était de diversifier nos actifs sur... ou nos placements par rapport à nos différentes stratégies. De quelle façon, toi, t'abordes ces sujets-là avec tes clients?
Bien, en fait, si on retourne aux bases là, de la planification financière, parce que je comprends pourquoi les gens veulent absolument investir dans l'immobilier, moi-même, je le suis. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais si on y va vraiment au niveau de la base de la planification financière, nous, notre rôle, c'est vraiment, en fait, de s'assurer de protéger les actifs du client, puis s'assurer qu'il y a une croissance de ses actifs en même temps. Mm-hmm. Fait que tout part de là, en fait, là, au niveau de la planification financière. Fait que si on parle juste de placement, parce que, tu sais, l'immobilier, c'est un placement, la bourse, c'est un placement, tout est un placement, là, au niveau des actifs, bien, quelqu'un, par exemple, qui investit juste dans l'immobilier, bien, c'est comme s'il y avait une seule catégorie d'actifs. Je pense que ça date pas d'hier qu'on parlait, justement, de pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Petite parenthèse, ça veut pas dire d'avoir des placements en caisse, à la banque, puis chez BMO, ça veut juste dire de diversifier à l'interne. Ça, j'appelle ça éparpillé. Donc, ceci étant dit, en fait, c'est moi, je trouve ça super important de diversifier justement. C'est comme si la portion des réels placements, là, on va dire, mettons, les fonds mutuels, je ne rentrerai pas dans les fonds distincts là, pour aujourd'hui, mais les fonds qu'on connaît là, réguliers, ben, c'est comme si c'était notre partie défensive de notre planification financière, puis notre partie immobilière, finalement, mais c'est comme notre partie agressive. Parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est comme si on avait acheté une seule action puis qu'on avait tout mis notre argent dans cette action-là. Oui, c'est profitable depuis des années. Puis c'est vrai que c'est un bon placement. Puis nous, quand on fait justement un plan financier, bien, on en prend compte dans les actifs. Là, bien évidemment, on n'est pas contre l'immobilier. Mais c'est important justement d'avoir d'autres types d'actifs pour s'assurer que peu importe la situation future, parce qu'on n'a jamais de contrôle sur ce qui va se passer dans le futur au niveau financier, mais qu'on a des options de disponibles aussi. Donc, en s'assurant de diversifier au niveau de nos actifs, bien, ça nous assure que peu importe la situation financière future dans laquelle on va se trouver, qui est complètement inconnue à ce jour, on va avoir des options possibles pour le faire. Fait que c'est comme si quelqu'un arrivait à sa retraite, par exemple, puis qu'il avait prévu de vendre tous ses immeubles. Bien là, en fait, disons qu'on est dans une récession, que les taux d'intérêt sont vraiment élevés, puis que là, plus personne veut acheter, bien là, c'est sûr qu'il n'y aura pas la liquidité qu'il avait prévue nécessairement. T'sais, il peut continuer à faire ses locations et tout ça, mais c'est sûr que son plan de retraite va être différent là, à ce moment-là. Tandis que s'il avait prévu notamment des REER, des CELI et tout, bien, il pourrait utiliser ces actifs-là en attendant de pouvoir profiter
du bon timing. De vendre. Ben oui,
exactement. Puis tu sais, on parle des taux d'intérêt aussi. Puis tu sais, on parle toujours des années 80. Les taux ont monté de 5-7 % à 20-22 % Puis tu sais, c'est-tu plus dommageable un 20-22 % de l'époque de 1980 versus un 5,5-6 % aujourd'hui? Ouais. Bien, la réalité, c'est que le 20 % de l'époque représentait peut-être un 30-35 % de ratio d'endettement sur ton revenu versus que maintenant, le 5,5-6 % ça représente un 40-45 puis presque 50 % de ton revenu. Ça. Fait que tu sais, le 5,5 % avec la valeur de la propriété, les paiements mensuels que ça prend versus le revenu moyen, bien, ça fait en sorte qu'on vient s'égorger beaucoup plus à 5,5% versus dans les années 80, qui est à 20%. Fait que, tu sais, des fois, ça vient briser un peu qu'est-ce que les gens pensent par rapport à ça aussi, là.
Oui, parce que quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, il y a beaucoup de personnes qui ont soulevé ce commentaire de 20% dans le temps de mes parents. Mais effectivement, moi, j'ai pas fait l'exercice, mais j'ai vu plusieurs collègues de l'industrie faire l'exercice, puis c'est pas du tout la même chose, le côté ratio de ce côté-là. Puis les placements pourraient aussi être utilisés comme stratégie financière pour réduire les impôts, par exemple. Fait que ça, si on va laisser de côté le CELI, parce que ça, c'est un autre véhicule de placement, mais si on parle juste de REER ou de RRI, le RRI, c'est un régime de retraite un régime de retraite individuelle, parce qu'il y a plein de termes, là. en fait, ça, c'est uniquement pour des propriétaires d'entreprise. Fait que c'est un réel fonds de pension. C'est des actuaires qui mettent ça en place. Il faudrait faire une capsule complète sur leur RRI. Mais c'est super avantageux. Ça te crée un espace REER plus élevé que le REER individuel. Puis c'est à l'intérieur de ta compagnie. Fait que ça pourrait être à l'intérieur d'une compagnie immobilière. Puis ça réduirait les impôts de l'entreprise aussi en même temps. Ça, c'est comme les grandes lignes, là, mais okay. Il y a quand même des stratégies intéressantes.
Il faut-il avoir beaucoup d'employés pour mettre ça en place?
Non, les médecins le font. Aussi, les professionnels, aussitôt en fait que tu as une compagnie, que tu faut idéalement, c'est 40 ans et plus, là, mais il y en a qui le mettent en place avant, parce que c'est là, au niveau de l'actuariat, des calculs actuariels, en fait, que l'écart entre le REER et le RRI va se créer. Fait que si on a beaucoup de liquidités, par exemple, dans notre compagnie de gestion immobilière, mettons, ben on pourrait tout mettre cet argent-là dans ce... ben pas tout, là, mais on pourrait mettre ce qu'on a le droit dans ce produit-là, puis on se créerait même la même chose qu'un fonds de pension à prestations déterminées, en fait.
Ça vaut quand même la peine, là. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Par contre, les investisseurs qui ont beaucoup de liquidités, la réalité, c'est qu'ils vont vouloir l'investir pour acheter un nouvel immeuble aussi.
Exact.
Par contre, c'est toujours bien de prévoir un certain montant de ça pour pouvoir l'appliquer.
Ouais. Mm-hmm. Mais tu sais, comme on dit, c'est parce que de tout mettre en immobilier, mais c'est qui qu'on a eu? On a eu un invité là, qui l'a dit que pour vendre, présenter son dossier à la banque, il se gardait tout le temps des placements.
Exact.
Aussi,
puis,
parce que c'est liquide, là. C'est liquide, l'immobilier, c'est pas liquide, là.
Ben c'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde dans l'industrie financière, si on veut, va considérer ça comme... un risque qu'ils ne peuvent pas nécessairement se fier parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans le futur. Fait que ça prend des liquidités. Les banques aiment beaucoup ça, tu sais, normalement.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ces liquidités-là. Mais moi, je pense que c'est hyper intéressant. Puis, tu sais, on a parlé du cas de la retraite, mais le décès, on l'a dit tantôt, là, tu sais, on a déconné en disant on prévoit une date. On s'entend qu'il n'y a pas de date, là. Un entrepreneur qui décède demain matin,
ouais,
va avoir de l'impôt à payer. Oui. On peut pas éviter le décès et les impôts. Puis les deux arrivent en même temps dans le cas d'un décès. Donc, on est présumé avoir disposé de l'ensemble de ses biens à juste valeur marchande. Ça peut vraiment mettre
la succession en péril.
En péril, parce que là, elle a de l'impôt à payer, elle a des actifs
qui sont pas liquides.
Donc,
exactement. Il y a deux scénarios, en fait. Un scénario que je vais dire défavorable, puis un scénario favorable. Fait qu'admettons qu'on a, si on voulait pas vendre nos immeubles, là, puis peu importe que ce soit à la retraite ou pas, mais le but, c'était pas des ventes, disons. On n'a pas prévu, par exemple, une assurance vie. On n'a pas de placement non plus, puis on a juste de l'immobilier. Mettons que c'est ça la situation. On décède demain. Bien, peut-être qu'on voulait dans notre testament que notre succession, on l'a peut-être fait le testament, puis on voulait peut-être que la succession hérite de ces immeubles-là, mais comme c'est pas une résidence principale puis c'est des résidences secondaires, bien, c'est sûr qu'il y a un impôt payable par rapport au gain en capital qu'on a fait à l'achat versus la vente, puis on sait que l'immobilier augmente toujours d'année en année à cause notamment de plusieurs facteurs et de l'inflation. Donc, on décède, qu'est-ce qui arrive? Bien, même si la succession veut garder les immeubles, il y a une facture d'impôt à payer là, sur ce gain en capital-là. On ne peut pas s'en sauver. Il n'y a aucune façon de se sauver de ça. Il faut qu'il la paye. Puis c'est pas nécessairement facile toujours de se faire financer. Puis ça ne veut pas dire qu'on a la capacité de se faire financer en tant que succession. Ça dépend de notre situation financière.
Oui, c'est ça, exact. Parce que l'immeuble peut avoir une très grande valeur. Par contre, si tu n'as pas de revenus, ils ne pourront pas s'attacher à rien. Fait que c'est sûr qu'ils ne prêteront pas de l'argent sur une valeur d'un immeuble si la capacité de remboursement n'est pas là non plus.
Oui, exact. Et en plus, on s'entend qu'on est dans un contexte de succession, que la personne a bien d'autres choses à gérer, qu'elle ne connaît pas l'immeuble. Il faut qu'elle fouille dans ses papiers. Combien ça vaut, comment c'est géré. Il y a déjà aussi plein de choses à gérer que tu peux-tu vraiment prendre le temps d'aller à la banque pour faire financer ton impôt.
Puis si après ça, c'est à cause que c'est des papiers qui ne sont pas chez vous. C'est dans le sens qu'il faut que tu trouves à quel endroit qu'ils sont aussi ces papiers-là. Fait que ça l'amène une couche de difficulté quand même pas mal plus élevée aussi. Là.
C'est ça, exactement. C'est sûr que ça peut causer des problématiques. T'sais, même quelqu'un qui a juste un chalet, là, c'est la même situation possible aussi. C'est pas nécessairement d'être un gros parc immobilier. Il faut savoir que les résidences secondaires, il y a un impact fiscal important. Puis ça, on va le vivre dans les prochaines années, justement, à cause du boom immobilier là, qu'il y a eu puis de la valeur que ça a pris. Le deuxième scénario, bien, c'est qu'on a évalué, justement, nos besoins en cas de décès. On n'est peut-être pas obligé de tout couvrir, mais au moins un minimum. L'assurance vie, on va peut-être la payer 20 000, puis ça va en donner 500 000. Là. Ça dépend de plein de facteurs. Mais ça vaut la peine, justement, de donner ça à la succession pour permettre de financer les impôts. Puis c'est, le coût est vraiment moindre et ça enlève beaucoup de stress au niveau de la succession.
Puis, tu sais, au niveau des ventes d'immeubles, au niveau des successions, puis, tu sais, c'est drôle parce que ça fait partie des discussions depuis plusieurs semaines à l'intérieur de l'équipe où ce que l'ensemble des propriétés qui sont à vendre, je ne veux pas dire que c'est des successions, puis des décès, puis des suicides, etc. Mm-hmm. Mais ce matin, dans une rencontre à 8h30 avec nos courtiers, on a eu l'annonce comme de quoi qu'une de la femme donne nos anciens clients s'est suicidée. Puis là, ben, tu sais, finalement, là, c'est comme des drames, là, puis c'est drame après drame. Puis il y a des fois, tu sais, t'es pris émotionnellement dans une histoire qui a comme pas de fin, puis tu sais pas où est-ce que tu vas trouver tout ça. Puis si en plus, tu dois prendre toute la charge administrative, qui doit se faire quand même assez rapidement, ça se fait pas, ouais. Ça se fait pas genre sur un an, on va prendre le temps de le faire, là, tu sais, ça se règle vraiment rapidement. Fait que, tu sais, de bien se planifier, de bien avoir les clauses de sortie, ça va nous donner un bon coup de main, puis ça devient de plus en plus fréquent, là.
Oui, tout à fait. Puis ils vont en avoir beaucoup là, des décès avec beaucoup d'actifs, là, comme je disais, dans les prochaines années. Fait que de bien, c'est sûr, c'est pas, comme on disait, excitant de parler d'assurance, mais de bien planifier autant le testament, parce que mourir sans testament, ça, c'est autre chose. Puis autant de planifier pour que ce soit le plus simple possible pour notre famille. Fait que est-ce qu'on a travaillé toute notre vie pour acquérir justement un actif important pour laisser ça aller finalement aux impôts parce qu'on n'est pas capable de reprendre justement parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place ou on veut que ça soit facile finalement pour notre succession parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une succession, là, l'évaluation de tous les immeubles et tout. Là, en plus, s'il faut se battre justement pour se faire financer puis peut-être que ça ne nous tente pas non plus de se faire financer, mm-hmm. Ben, ça se peut qu'il soit obligé de vendre à perte justement parce qu'il faut qu'il vende rapidement, là.
Il y a des entrepreneurs qui vont prendre des assurances prêts qui se font exiger par la banque. C'est quoi ton opinion par rapport à ça?
Ben, en fait, c'est sûr que c'est mieux que rien. T'sais, on est toujours mieux d'avoir de l'assurance prêt que rien du tout. Qu'est-ce que j'aime un petit peu moins, on va dire, c'est si on est dans une condition médicale favorable, je préfère que les clients s'assurent individuellement. Parce que premièrement, s'ils changent de prêteur, ben l'assurance vie n'est pas liée au prêteur. Donc, elle va suivre tous ses besoins durant tout le temps qu'il en a de besoin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et elle va toujours être fixe aussi, la prime. Tandis que quand on refinance ou quand on va à notre renouvellement hypothécaire, ben au niveau de l'assurance prêt, elle se remet à l'âge où ce qu'on est rendu, finalement. Fait que si on avait, mettons, 35 ans quand on a acheté, ben c'était ça le taux de 35 ans. On a 40, ben là, maintenant, c'est le taux de 40 ans. Oui, le prêt décroît. Mais la portion du coût d'assurance pour la protection, ben elle est plus chère. Fait que c'est sûr qu'au niveau des coûts, à long terme, il y a beaucoup d'économies là, qui se fait là, de ce côté-là. Là.
Puis tu vends les meubles, t'as oublié de reprendre une assurance, fait que là, t'es plus couvert.
C'est ça. Ben j'avais eu un client, là, 2 ans environ, lui, il avait dit oui à toutes les assurances prêts, plus des assurances, il avait rencontré des conseillers financiers, il avait souscrit à des assurances individuelles, il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'assurances-vie. Puis beaucoup d'immobilier aussi. Fait que là, on a tout englober ses besoins dans une ou deux assurances, là, une assurance temporaire pour ses besoins temporaires, puis une assurance permanente, puis ça coûte moins cher aussi que qu'est-ce que ça coûtait. Puis en plus, son coût, il est fixe. Il était quand même rendu à 50 quelques années. 50 ans, tu sais, c'est encore jeune dans une vie relativement, mais pour l'assureur, les primes sont quand même assez élevées, là.
Ben oui. C'est fou pareil, hein? Ouais. Beaucoup de gens qui se questionnent juste pas, puis comme on le disait, c'est pas un sujet qui est tant le fun à parler, fait que la banque prend une assurance prêt, OK, je te signe ça, j'ai pas rencontré personne d'autre.
C'est ça.
Ah, et puis tu sais, en même temps, c'est à cause qu'on va faire un one-stop shop, puis on va tout faire à la même place, tu sais, c'est souvent ça qui se passe aussi, puis tu sais, un autre point qu'on... Tu sais, on a parlé beaucoup de décès, on a parlé de testament, on a parlé un peu de retraite, mais il y a la maladie aussi qui peut arriver, puis il y a des maladies graves qui peuvent arriver aussi. Puis tu sais, il y a des programmes qui existent qui sont vraiment intéressants au niveau de la maladie grave, qui fait en sorte que tu peux avoir tes primes qui sont payées par ton entreprise, mais que tu peux bénéficier des gains ou du paiement de la prime au personnel sans nécessairement avoir d'imposition à payer. Fait que j'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu plus.
T'as fait un bon départ. Dans le fond,
fait que je l'ai compris.
Oui,
là.
C'est ça. Fait qu'en fait, au niveau de l'assurance contre les maladies graves, ben en fait, c'est le même principe pour la mettre en place. Il faut être en bonne santé puis il faut faire une demande d'assurance selon les besoins. T'sais, quand on fait des demandes d'assurance, il faut toujours qu'il y ait quand même une justification pourquoi qu'on fait la demande. Mais c'est quand même assez simple là, quand on respecte là, les actifs du client. Fait que ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, on met en place le produit. Normalement, j'ai un avocat des fois à référer. Mais là, Sylvie, tu m'as dit que t'en faisais aussi.
Ouais.
C'est important, dans le fond, de faire une convention de partage de primes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est une assurance contre les maladies graves qui... Il y a une prime annuelle, mais il y a aussi un avenant. Un avenant, c'est comme une option que tu ajoutes à ton contrat qui permet de récupérer les primes à 100 % dans certains assureurs. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, à ce moment-là, c'est quoi la stratégie? Ben, c'est de se faire une convention de partage de primes.
Entre la société et l'individu.
Ouais, exactement. Entre la société et l'individu. Mais l'assurance maladie grave est détenue par la compagnie payeur et bénéficiaire. Fait que mettons que moi, je suis l'assuré seulement si je souscris, puis tout le contrôle est par ma compagnie de gestion ou idéalement de gestion. Ensuite de ça, on fait la convention dans 15 ans, puisque du 15 ans, 20 ans, là, on choisit le remboursement de prime, mais le plus populaire, c'est dans 15 ans. Bien, il faut s'être soit imposé sur l'avenant de remboursement de prime de façon personnelle ou il faut l'avoir payé à part. Mais tu sais, c'est une petite option plus petite au niveau de la prime que la prime totale, là, on va dire. Et au moment où ce qu'on atteint notre 15e année, ben là, on peut faire la demande de rachat. Donc, à ce moment-là, on peut percevoir 100 % des primes payées par la compagnie, mais de façon personnelle. Fait que ça peut être des options pour sauver de l'impôt, finalement.
Souvent, c'est des couvertures qui coûtent quand même assez cher. Fait qu'après 15 ans, on peut parler d'un bon montant qu'on récupère là, dans nos mains.
Exactement. C'est quand on fait l'évaluation au niveau de ce besoin d'assurance-là, bon, il va aussi avec la capacité de paiement du client. Puis on s'assure qu'on ne met pas tout dans l'assurance maladie grave non plus, là, qu'il reste d'autres, justement, d'autres liquidités pour diversifier ses autres actifs. Fait que ça peut être un paiement, n'importe quel paiement que c'est, ça va être la même stratégie. Fait que si tu veux récupérer plus, ben tu prends une plus grosse prime, finalement. Ouais, puis...
Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant parce que oui, tu n'as pas fait de rendement sur cet argent-là que ta compagnie a placé, mais tu sais, tu t'es payé une protection, tu t'es payé l'assurance maladie grave. On en parlait, hein, c'est ça que les clients collectent plus. C'est quoi, deux tiers de...
On parle au niveau statistique que c'est presque 2 personnes sur 3 qui vont avoir une maladie grave au courant de leur vie. Moi, personnellement...
2 personnes sur 3 vont avoir une maladie grave.
Une maladie grave, c'est le cancer.
Puis tu sais, moi, c'est ça. Définition, c'est quoi une maladie grave?
La base du contrat, c'est toujours cancer cardiovasculaire puis cérébrovasculaire. Après ça, tu peux rajouter jusqu'à 26, 28 maladies. Là, il y a de la perte d'autonomie, brûlure grave. Tu sais, ça va au-delà un peu de la maladie grave, là, mais il y a vraiment beaucoup de couverture là, qui est disponible là, en termes de couverture.
Puis, y a-tu beaucoup d'exclusions? Par exemple, le cancer, mais tu n'as pas le droit d'avoir ce cancer-là.
Dépend de l'assureur. Il faut connaître, en fait, les produits d'assurance là, pour choisir la bonne assurance, si on veut, de ce côté-là. Mais c'est sûr que le cancer, par exemple, ça, c'est pour toutes les assureurs. Si j'ai un grain de beauté que je peux faire enlever à l'intérieur d'un jour, mais qui est cancérigène, ça ne va pas payer, là, parce que ce n'est pas... c'est pas un danger pour la vie, dans le fond, de ce côté-là. Mais les exclusions sont vraiment raisonnables là, au niveau des assureurs que moi, j'utilise. Puis personnellement, sur là, ça va faire 11 ans que je suis dans le domaine, c'est l'assurance que j'ai eu le plus de réclamations. C'est pas des gens de 50, 60 ans, là, mes clients, là, c'est des gens de 30, 40 ans, là, majoritairement. Là.
Quand même, ouais, hein, quand fou, même.
Hein. Oui, fait que tu sais, tu as une protection pendant 15 ans si t'arrive quelque chose. Tu peux aussi la garder. Oui, en compte, après 15 ans, non, je l'aime, cette protection-là, je la garde.
Puis le remboursement continue de se cumuler. Okay, là.
En plus, oui, fait que, c'est vraiment ça. Cool. Fait que, moi j'en ai une maladie grave comme ça. Puis c'est ça, je l'ai mis dans ma catégorie. Là, j'ai un bilan financier. Puis je l'ai mis autant dans ma catégorie placement parce que ouais. Je considère que moi, c'est 3 000 annuels que ça me coûte. Fait que mm-hmm. Ce 3 000-là, je peux le récupérer un jour. C'est comme volet placement. Puis j'ai en plus une assurance maladie grave qui me couvre. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un produit que tout entrepreneur devrait avoir parce que, tu sais, j'ai le cancer demain matin, là, je peux plus travailler, là. Mm-hmm. Tu sais, je suis pas invalide. Je suis pas invalide au sens de mon assurance invalidité. Je suis pas décédée, évidemment, mais crème, tu veux-tu pas stresser sur l'argent puis, tu sais, pendant que t'es malade puis t'es en traitement, t'sais?
Parce que c'est pas tout. Les maladies graves qui entraînent une invalidité automatiquement. Mais mm-hmm. ça peut affecter ta business, ton travail de façon... Parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on va avoir comme maladie grave. Ben là, donc, ça peut être un gros impact, ça peut être un petit impact. Mais mettons que j'ai payé au bout de ça 25 000 $ puis ça m'en donne 300 000. On s'entend que c'est un méchant beau rendement. Là, pareil, si on parle de rendement. Puis au niveau de ton remboursement de prime, si tu es au taux d'imposition maximum au niveau personnel puis que tu aurais retiré cet argent-là de ta compagnie, tu aurais payé la totale pour le retirer. Mm. Fait que tu es gagnant dans tous les scénarios possibles qui peuvent arriver. T'espères de ne pas réclamer, mais quand même.
Puis tu sais, une des choses que tu avais mentionné aussi, c'était je donne une prime annuelle de 3 000 $ par année. Tu n'es pas obligé de te casser non plus à donner 3 000 $ par mois non plus.
Ça peut être
1 000 comme...
ça peut être 500 $. Tout peut se faire au niveau du budget.
Oui, c'est ça. Je disais que c'était cher, mais tout est relatif. Puis ça dépend de chaque situation, j'imagine aussi. Mais
c'est des 20 000.
Oui, c'est ça.
Tu sais, l'avantage que tu as aussi avec ça, c'est que tu viens faire un placement. Tu sais, par exemple, on dit 10 000 $ par année sur 15 ans, ben, tu sais, 15 000 que tu vas avoir placé. La réalité, c'est que ta corpo va peut-être en avoir payé 12 000. Puis toi, mm-hmm. au perso, tu vas en avoir payé 3 000. Mais après le 15 ans, tu vas pouvoir retirer le 15 000 $ qui te revient au perso sans impôt. Fait que, tu sais, au final, il en vaut 30 000, cet argent-là
exact.
Aussi. Là.
C'est ça. Bien, quand on fait, c'est pas moi qui fais les illustrations, là, je laisse ça aux spécialistes. Fait que quand je demande de faire l'illustration pour le client, justement, on sort tout l'aspect fiscal de qu'est-ce qu'il récupère aussi, là, bien évidemment, pour qu'il voit l'avantage en plus de la couverture.
Tu sais, ce produit-là, quand c'est sorti, je me souviens, je sais pas c'est quelle année, mais moi, j'ai commencé à faire des conventions dès le début. Puis c'était ça, c'était comme les gens que je rencontrais, c'était quasiment c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Les autorités fiscales vont peut-être challenger. Il faut vraiment avoir des conventions, justement, pour bien se protéger. C'est super important, mais... force est de constater que ça continue, ça marche. Les autorités fiscales ne sont pas embarquées là-dedans. Donc, c'est toujours un bon moment d'en prendre. Puis on s'entend que les autorités fiscales ne reviendront jamais sur le passé. Logiquement, non. D'habitude, mm-hmm. une loi rentre en vigueur pour le futur.
Exact.
Ça vaut encore la peine, là, je trouve, de prendre ce produit-là. Là, moi,
oui, puis ça prend de plus en plus de popularité. V'là 10 ans, quand j'en parlais, tu es comme la maladie grave. J'ai déjà une assurance invalidité, une assurance vie. Pourquoi? C'est comme un luxe. Même moi, je croyais ça. Puis à un moment donné, on dirait que j'en ai pris pour moi, j'en ai repris l'année passée, puis là, je me dis, OK, là, j'en ai assez là, d'assurance. Là. Mais tu sais, il y a vraiment un avantage à le faire. T'sais, au niveau de l'assurance-vie, tantôt, on n'en a pas parlé, mais même chose pour l'assurance-vie participante ou de l'assurance-vie universelle. Bien, dans une vie permanente, là, on a parlé plus de la temporaire pour protection des prêts, tu peux accumuler des valeurs de rachat dans ta police d'assurance-vie. Puis tu peux l'utiliser aussi en mettant en garantie ta police d'assurance pour justement personnellement utiliser la somme d'argent qui reflète ta valeur de rachat au niveau de ton assurance-vie. Fait que ça peut faire les deux. Tu peux l'utiliser de ton vivant dans une stratégie comme ça. Puis en plus, tu l'as pour ta succession aussi en cas de décès pour couvrir ce qu'on disait tout à l'heure, là.
C'est-tu intéressant, Sylvie?
Très intéressant.
Vraiment. Écoute, tiens, on a le goût d'avoir une consultation privée tout de suite après l'émission. Vous êtes à l'écoute de CJMD 96.9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après le jargon avec Guillaume Fortin, mais juste avant, zone parallèle.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
.com. CJMD 96.9.
à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Aujourd'hui, on parle de services financiers avec Caroline Charret, qui est présidente de services financiers. Caroline Charret, merci d'être présente. Merci de répondre à toutes nos questions. Les gens ne sont pas présents, mais hors d'onde, ils s'en posent des questions, mais ouais, énormément.
Caroline est bombardée. Elle nous apprend plein d'affaires. Vraiment. Elle n'était pas prête elle-même à ce qu'on la bombarde comme ça. Mais c'est parce qu'elle est compétente. Elle nous répond. En plus, elle a les réponses. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne avant la pause. On a commencé à aborder un sujet intéressant, là, des fameuses polices temporaires, permanentes. Mais ça, j'en entends parler souvent, mais on dirait que je suis un peu mêlée. Puis, en plus, tu as parlé de stratégie en lien avec ça. Donc, prenons le temps de revenir.
Parfait.
Différence.
C'est ça, je vous ai lancé une bombe.
Avant la pause.
Avant la pause.
Exact.
Bon, bien, dans le fond, on va y aller le plus simple possible parce qu'il existe une multitude d'assurances-vie. Fait que disons qu'il y a de l'assurance temporaire. L'assurance temporaire, ça, c'est vraiment pour des besoins temporaires. Fait que besoin temporaire égale un prêt, couvrir un prêt, la période de temps où on a des enfants à charge ou une personne à charge. Fait que normalement, ça, on va couvrir ça à l'aide d'une assurance temporaire. Puis quand on parle de temporaire, c'est parce qu'il y a un terme. Fait que ça peut être du 10 ans, du 20 ans, du 30 ans. Il y a même du T100, que ça serait comme une assurance-vie permanente déguisée, mais on ne rentrera pas là-dedans pour aujourd'hui. Dans de l'assurance permanente, en fait, c'est vraiment uniquement une couverture d'assurance. Là. Fait que tu payes puis tu perds tout ce que tu as mis dans le produit si tu n'as pas réclamé finalement. Fait que c'est vraiment un au cas où. L'assurance permanente, elle, ça, c'est toute ta vie que tu la gardes. Fait que toutes les assurances permanentes, sauf celle que je viens de dire, là, la T100 puis tout ça. Normalement, on appelle ça des vies entières. Tu sais, il y a plusieurs termes en plus pour être plus facile pour les gens. Fait qu'ils ont tous une valeur de rachat de base. Une valeur de rachat, ben ça dit valeur de rachat. Donc, si je rachète parce que mon assurance-vie m'appartient, si je rachète mon assurance-vie, il va avoir une valeur que je vais récupérer de ma police d'assurance. Fait que ça, c'est comme la base. Après ça, on embarque dans des assurances-vie participantes ou des assurances-vie universelles. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins à l'aise avec les vies universelles. C'était très populaire il y a plusieurs années. Je vais vous expliquer quand même la base. Une assurance-vie universelle, c'est que tu paies ton coût d'assurance permanente toujours. Là, je suis vraiment dans l'assurance permanente, je ne suis plus dans l'assurance temporaire. Et tu peux placer toi-même un montant d'argent. Fait que, mettons que ta prime te coûte 50$ par mois, ben tu pourrais mettre 100$ par mois, puis 50$ restant, on va dire, lui, il s'en va dans un placement avec des choix de fonds, tout ça. Moi, personnellement, mais tu sais, c'est une opinion personnelle comme professionnelle, là, on a tout notre style de gestion, si on veut. Je préfère que le client place ses sous dans des régimes d'épargne séparés de son assurance-vie. Après ça, moi, ce que j'utilise plus, ça va être des assurances participantes. L'assurance participante, il y a quelques participantes, j'ai dit un peu vite.
Non, c'est correct.
En fait, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui l'offrent. C'est vraiment, j'ai ma valeur de rachat de base et j'accumule des dividendes à chaque année. Fait que c'est comme si j'achetais des actions de l'entreprise, dans le fond. Fait que mettons que c'est une compagnie qui offre des assurances. Je ne veux pas nommer n'importe quelle compagnie pour ne pas faire du favoritisme, mais une compagnie qui offre de l'assurance-vie permanente, participante par contre, va offrir d'acheter des actions dans un certain sens. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer. Fait qu'à chaque année, elle va redonner des dividendes au contrat. C'est toujours injecté dans le contrat d'assurance au propriétaire. Fait que la valeur de rachat, va être plus élevée qu'un contrat standard là, de vie entière. C'est sûr qu'il y a un coût un petit peu plus élevé pour ça, mais ça fait un peu effet boule de neige, puis c'est vraiment des placements ultra sécuritaires normalement dans lesquels c'est investi. Fait qu'on profite de cette épargne-là. Quand on a, tantôt j'expliquais en fait qu'on pouvait l'avoir dans sa compagnie, donc là on peut avoir une assurance vie permanente participante dans sa compagnie, bien, à ce moment-là, les valeurs de rachat, eux, pourraient être mises en garantie par une banque. Il y a plusieurs banques là, qui le font actuellement. Donc, je m'en vais avec mon contrat d'assurance. Il faut l'avoir eu depuis plusieurs années pour que ça vaille la peine.
Ça l'a accumulé de la valeur.
Oui, c'est ça, exactement. Enfin, c'est à long terme. Donc, je m'en vais voir la banque. J'ai dit, bien, mettons, écoute, moi, j'ai 250 000 de valeur de rachat. Est-ce que je peux mettre mon contrat d'assurance-vie en garantie? Puis toi, tu m'ouvres une marge de crédit, par exemple. Donc ça, c'est une des façons de faire. Fait que là, on peut utiliser la marge de crédit comme bon nous semble. Et une marge de crédit, c'est pas un revenu.
Mm-hmm.
Puis là, pendant ce temps-là, notre assurance-vie est toujours dans notre entreprise. Là. Je décède, la banque paye, dans le fond, la dette. Fait que là, on réduit la dette de la marge de crédit à ce moment-là. Puis, il reste le capital assuré toujours plus élevé que la valeur de rachat. Donc, il reste l'argent pour la succession en plus. Fait qu'on a comme utilisé la valeur de rachat sans toucher à notre police d'assurance, sans impôt non plus. Il y a des intérêts qui se sont accumulés. Puis, on a profité de notre vivant. Puis, on peut en profiter de notre décès aussi. C'est sûr que là, à tous nos écouteurs, prenez pas ça. Allez pas dire que c'est nécessairement appliqué à vous. Il faut vraiment que vous fassiez une évaluation pour savoir vos besoins puis si c'est une bonne stratégie pour vous. Ça, c'est vraiment important de le dire.
Tu sais, il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Les gens ont de la misère à se financer. Ils ont des mauvaises surprises. Ouais. Faut qu'ils mettent des plus gros cash down. Ou j'ai une police qui a une valeur de rachat. Je décide de prendre ça comme levier, ouvrir une marge avec ça. Ça peut être une solution hyper intéressante.
Mm-hmm.
On parle pas si souvent, honnêtement. On parle pas ça vraiment souvent. Merci d'avoir pris le temps de d'expliquer calmement. Et moi, j'ai une assurance vie temporaire, mais j'ai l'impression que c'est parce que ça coûtait moins cher. Oui. T'es jeune, t'as moins d'argent. Ouais. Ça, c'est renouvelable là, quand même. Là. C'est ouais, ça, le bon 10 ans.
Dépendamment si c'est un T10, justement, ben, mettons que tu l'as pris en 2015, mais en 2025, là, t'approcherais ton renouvellement. Malheureusement, si t'es plus en bonne santé, ben t'as quasiment pas le choix de prendre le renouvellement. Mais le renouvellement, souvent, ça va être trois fois la prime. Parce que l'assureur, il se dit, ben, si elle renouvelle puis elle fait pas une nouvelle négociation d'assurance, c'est sûrement parce qu'elle est moins bien assurable. Fait qu'il charge en conséquence.
Ah, oh, ouais, c'est malade.
Ben, c'est ma déduction, là. Ben, tu sais, je me dis,
ouais.
Mettons que j'arrive à mon terme. Tu sais, je vais voir le prix. Mettons que ça me coûte 3 000$ à la place de 500$ mm-hmm. par année. C'est sûr, je vais appeler mon courtier et je vais dire, hey, on peut-tu négocier une assurance vie ensemble? Ça n'a pas de bon sens, tu sais, mon augmentation. Ben, parfait. Es-tu encore en bonne santé? Oui, OK. On fait une nouvelle demande puis on remplace le contrat actuel. Mais si tu n'es plus en bonne santé,
tu vas vouloir la garder, celle-là, puis tu vas payer plus cher.
Mm-hmm.
Ouais. Parce que c'est ça, c'est tout le temps intéressant de protéger son assurabilité. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Fait que la temporaire est intéressante pour ça. Mais non, il va falloir que je fasse mes devoirs, il va falloir que je fouille mes trucs.
Puis aussi, si la plupart des compagnies d'assurance, en fait, quand on a de l'assurance temporaire, ils ont d'autres produits, dont de l'assurance permanente. Fait que c'est possible, généralement, de transformer son contrat en assurance permanente sans passer des tests médicaux puis refaire le questionnaire médical aussi.
Le faire au T9, on le transfère en permanent à ce moment-là. Puis...
Exact.
Mm-hmm. Okay. Intéressant. C'est-tu des primes fixes quand c'est permanent?
Oui, mm-hmm. Puis les primes en plus au niveau du permanent, à permanent, si on y va en vie universelle antérieurement, je ne rentrerai pas là-dedans, mais normalement, c'est en prime fixe et tu peux choisir un terme aussi. Fait qu'il y a du 10 ans, du 20 ans ou du payable à vie. Ça, c'est pas mal de façon générale. Là. Fait que c'est sûr que si tu prends un vie 10 primes, qu'on appelle dans notre langage à nous, ben dans 10 ans, ta police est finie de payer puis tu la gardes toute ta vie. Mais c'est sûr, ça coûte plus cher parce mm-hmm. que tu la payes plus rapidement. Mais quelqu'un qui est relativement jeune, il est mieux de prendre du 20 ans ou du 10 ans ouais. que du payable à vie si on considère qu'il décède, par exemple, à 85 ans.
Mm-hmm. Mm.
C'est-tu quand même intéressant? Puis, c'est quoi, j'aimerais ça que tu puisses nous dire, Caroline, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que les gens vont faire justement là, dans leurs produits d'assurance ou dans les produits de placement. C'est quoi tes meilleurs conseils à donner à monsieur, madame, tout le monde?
L'erreur qui, dans le fond, toutes les erreurs que je vois partent de la même erreur, c'est de ne pas avoir des rencontres assez fréquentes avec son conseiller financier ou son planificateur financier parce que la vie, elle évolue. Puis des fois, on a mis des choses en place que ce n'est plus nécessairement adapté à notre situation actuelle. Fait que si on rencontre régulièrement, là, t'sais, pas à chaque mois, là, mais au moins une fois ou deux ans, là, mm-hmm. ou trois ans minimalement, ben ça, c'est dépendamment si on a des placements ou pas, bien entendu, ben c'est sûr que ça l'amène justement à prendre les meilleures décisions. Puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans mes clients, c'est qu'ils me challengent beaucoup, fait qu'ils me posent des questions, ils veulent comprendre. Hier, j'avais une discussion sur les frais de gestion de placement, puis j'ai carrément dit c'était quoi la rémunération là, qu'on avait là, par mm-hmm. rapport à ces placements, parce qu'il veut comprendre justement de pourquoi il paye. Fait que poser les questions, il n'y a pas de questions niaiseuses, rencontrer, même si ça ne nous tente pas le plus souvent possible, puis surtout s'il y a des changements dans notre situation financière, ça c'est vraiment important, parce que tout peut avoir un impact sur les recommandations. Fait que des fois, on a l'impression, tu sais, j'ai déjà rencontré des clients qui chialaient sur leur ancien conseiller financier, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était la meilleure recommandation qu'ils pouvaient leur offrir, puis peut-être que
de
c'est
la décision.
C'est ça, exactement. Puis ça se peut même que le client, il avait pas d'argent, il était jeune, puis il a pris le moins cher possible aussi, puis que là, il pense que c'était pas bon ce qu'il a pris.
On évolue, tu sais, les projets évoluent, notre mindset évolue. Tu sais, moi, je m'en souviens, avant, j'avais dit à mon conseiller financier, j'avais dit, je pense que je suis quand même tolérante au risque, que je comprends que les placements, c'est sur le long terme. Tu sais, tu parles rationnellement, puis tout est beau, puis là, tu vends ton profil, peu importe, modéré ou risqué, peu importe. Puis là, il est arrivé la COVID, gros crash. Je m'en remettais en question. Est-ce que je chante tout, je chante pas tout? Tu sais, je me suis vraiment remis en question, puis je me suis découvert moi-même. J'ai fait, OK, finalement, puis tu sais, moi, j'ai une bonne capacité d'introspection, mais je l'ai dit à mon planif. Je lui ai dit, crime, finalement, j'ai moins de tolérance au risque que je pensais, parce que j'avoue que quand ça descend, ça me fait chier en maudit. Puis tu sais, l'idée de, c'est le long terme, puis non, non, là, on est en état de crise, on le vit, puis c'est la première fois qu'on le vivait, nous, là, tu sais, moi, j'ai 40 ans. Donc, tu sais, c'est des choses nouvelles qu'on ne sait pas comment on va réagir. Donc, l'idée de se rasseoir avec... avec son puis, conseiller est bon. Là.
Cette situation-là, ben, tu sais, je l'ai vécue en tant que professionnelle. Puis moi, j'ai toujours mis plus l'emphase sur les pertes que sur les gains. Parce qu'on le sait qu'à long terme, il y a toujours un gain. Là, c'est moindrement bien suivi. Même si tu le laisses là et tu ne le suis pas, généralement, ça va quand même à long terme avoir un gain. Mais c'est vraiment important de passer du temps avec ses clients pour qu'ils comprennent, OK, mais si ça baisse de 30 % puis que tu le ramènes à ses chiffres aussi. Mettons que tu as 100 000, puis là, tu es rendu à 70 000. T'es-tu à l'aise? Puis tu vas-tu être capable de dire, hey, je le laisse là parce que, tu sais, ça va remonter. Ça, c'est tough.
Ah non, mais ça, c'est tough. Puis, tu sais, moi, c'est une des choses que, tu sais, j'en ai des placements, mais c'est des placements que je check jamais, genre les rendements, puis je vais jamais voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, tu sais, une fois ou deux ans, peut-être que je vais regarder, voir qu'est-ce qu'il y en a, mais j'ai zéro intérêt à faire ça parce que je vais dire, ah, crif, c'est en train de monter, c'est excellent. Puis après ça, quand ça va baisser, ben là, je vais dire, ah non, c'est de la merde, esprit, nanana. Fait que je préfère dire, j'en ai. Quand j'en ai besoin pour des financements, etc., ben là, je vais chercher mon relevé pour savoir si je suis rendu à combien. Puis, tu sais, je vais le checker une fois par année, finalement, là, parce qu'on va avoir une demande de financement une fois par année pour différents projets. Mais tu sais, je suis vraiment pas intéressé de le suivre serré. Par contre, je suis tolérant au risque. T'sais, comme je disais tantôt, hors d'onde, ben tu sais, moi, j'avais un placement de 100 000 que je savais même pas était où l'argent, était placé à quel endroit, etc. Puis tu sais, ça a pris deux ans avant que je me dise, ah, ben tu sais, je vais aller voir que ça a l'air finalement. Mais tu sais, c'est ça. Fait que chacun sa tolérance aussi.
Mais tu t'en rends compte, tu sais. Moi, honnêtement, mes placements, à un moment donné, je checkais tous les jours. Là, j'ai comme un accès sur mon cell, puis à tout bout de champ, je me connectais. Puis tu sais, quand c'était bon, je checkais tous les jours, c'était le fun. Mais quand c'est pas bon, c'est pas le fun. Je parlais à un de mes clients qui avait de l'argent dans les bitcoins, justement, puis à un moment donné, il m'a dit, moi, c'est pas que ça allait pas bien, mais j'ai tout vendu, ça me stressait trop, je checkais tous les jours. Fait que tu sais, c'est ça, on apprend à se connaître aussi en tant que investisseur, tu sais.
C'est moi, je place moi-même mon argent, bien évidemment. Mais tu sais, je pense que je le regarde aux 6 mois. Là. C'est, je sais que j'ai fait la bonne. Moi, j'appelle ça des recettes là, de portefeuille. Là. C'est pas un terme qui existe pour vrai. Fait que je sais que je me suis fait une bonne recette, puis je suis comme, ben, gars, ça va suivre. Qu'est-ce qu'il faut que ça suive? Puis anyway, c'est pour le long terme.
Puis tu sais, bien qu'à un moment donné aussi, c'est pas nécessairement toi qui vas avoir le contrôle aussi du rendement, à savoir si ça va augmenter puis descendre. Puis aujourd'hui, ça peut descendre, mais tu sais, pour les 8 prochaines semaines, ça peut augmenter aussi. Fait que tu sais, faut en prendre puis faut en laisser aussi. J'ai trouvé le sujet vraiment intéressant. Pour vrai, c'est des rencontres qu'on doit avoir régulièrement avec nos conseillers. C'est des discussions qu'on doit avoir avec nos conjoints et conjointes, avec nos partenaires d'affaires, avec les conventions qu'on a, avec les actionnaires avec qui on est. Puis généralement, on va avoir plusieurs partenariats. Ça sera pas toujours avec les mêmes personnes qui va faire en sorte que un actionnaire va avoir une certaine réalité, que l'autre va avoir une certaine réalité aussi. Fait que, tu sais, d'avoir un plan de match avec le conseiller, ça vient vraiment donner un bon clin d'œil par rapport à tout ça. Caroline, si jamais on veut avoir tes coordonnées, on veut communiquer avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire?
On a des pages services financiers Caroline Charret que les gens peuvent communiquer avec nous. On a notre site internet aussi www.sf pour services financiers cc.vip. Sinon 418-476-4559. C'est rare que je m'appelle poste 100.
Puis te suivre sur les réseaux sociaux, justement Instagram, je le dis en entrée de jeu. tu es très généreuse de conseils, tu publies beaucoup de contenu, là, capsules vidéo ou autres, donc s'abonner. Sur Instagram, c'est Caroline Charest?
C'est Service financier Caroline Charest aussi, là, mais c'est quand même assez facile de trouver.
Ça vaut la peine de la suivre. Hey, souhaitez-moi bonne chance. Moi, ce soir, je suis finaliste au FIDE-ID.
Ah.
Donc, c'est ce soir au manège militaire. On croise les doigts, j'espère être gagnant
dans la catégorie. Un gros félicitations pour ta nomination, puis je te souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se voit samedi prochain.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
96.9.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.